Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
Les Shadocks, retour en grande pompe.
À notre époque, caractérisée par l'évolution d'une perspective résolument constructionnaliste, je trouve anormal que la télévision, qui a un potentiel intrinsèque de vecteur culturel, s'abaisse à diffuser un feuilleton comme les Shadocks, qui est dénué absolument de tout substratum formalistique.
C'est très simple, on est tout à fait à l'aise quand il s'agit de Shadocks. Nous sommes devant notre poste de télévision, ça nous rappelle déjà les mathématiques, on ne sort pas de notre monde.
Les Shadocks n'ont cessé de provoquer des interprétations plus savantes les unes que les autres. Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes. C'est une maxime de leur créateur, Jacques Rouxel, lequel était d'esprit mathématicien. Il ne faut donc pas s'étonner si les Shadocks ont été doctement commentés à l'école polytechnique dont on vient d'entendre des élèves de l'époque. Plus tard, Rouxel, qui était lui-même en analyse, proposa aussi des éléments psycho-cybernétiques de psychologie shadockienne. Les débuts de la diffusion ayant coïncidé avec le grand ébranlement de mai, on ne manqua pas non plus de lire la dissymétrie entre Shadock et Gibi comme une figure de la lutte des classes. Le pouvoir, pour diminuer le nombre de sujets de mécontentement, doit s'appliquer à taper toujours sur les mêmes. On a dit des choses tellement intelligentes sur les Shadocks qu'au bout du compte, on ne comprenait plus ce qu'on disait. Claude Piéplu, dont la voix professorale incarna l'aventure, expliquait « Depuis les Shadocks, je sais que je ne sais rien, mais ce rien n'étant pas rien, il peut s'emplir de tout. » Et c'est ainsi que ces drôles de volatiles sont devenus une série pour l'histoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Notre professeur Shadocko aujourd'hui, Sébastien Denis, bonjour.
Bonjour.
Pas mal imité. Pourtant, vous êtes arrivé quand tout s'éteignait.
Absolument.
C'est une formule de Paul Morand, mais vous, vous êtes né quand les Shadocks disparaissaient.
Oui, je suis né 2 ans avant la fin des Shadocks et avant la fin de l'ORTF.
Ouais. Alors depuis, vous êtes devenu docteur en cinéma, agrégé d'art plastique, professeur d'université. Votre livre qui vient de paraître, coproduit par l'INA qui soutient aussi l'exposition de Sète, le Musée international des arts modestes, propose jusqu'au début novembre une exposition sur les Shadocks, s'intitule « Esthétique et pataphysique ». Pataphysique.
Oui, la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires. Ouais. C'est une science, évidemment, fantasque, inventée par Jarry à la fin du 19e siècle.
Et alors, vous avez fait avec ça une habilitation de recherche, à moins que ce ne soit l'inverse, je me trompe peut-être dans l'ordre, sur le thème recherche pluridisciplinaire et intermédiatique. Intermédiatique.
Oui, c'est la question de l'intermédialité, c'est comment les médias se réfléchissent les uns dans les autres.
Mais vous-même, vous êtes un intermédialiste à vous tout seul, puisque vous faites des films, vous fabriquez des clips pour des groupes de musique, vous produisez des livres savants, vous animez des colloques, etc. etc. Bon, si vous voulez bien, on va faire surtout de l'histoire un peu d'intermédialité, peut-être. Il y a quand même une chose étonnante, c'est que à peu près à la même époque, naît du cerveau ambivalent d'un président de la République, Pompidou, d'un ministre de la Culture et de technocrate de la Culture, un truc invraisemblable, le centre Georges Pompidou, au milieu du Paris historique, qui expose ses fonctions organiques, ses tuyaux, comme ça. Et à la télé d'État, c'est un petit peu avant, mais Georges Pompidou est Premier ministre, à l'époque où Michel Droit ne dit jamais un mot de travers, où Guy Lux n'exprime jamais une pensée, naît cette incongruité. Les Shadocks, ça tient à qui, à l'ORTF ?
Alors, les Shadocks sont nés dans un contexte effectivement très particulier, qui est celui du service de la recherche de l'ORTF, inventé par Pierre Schaeffer.
Parce qu'ici, il y avait la Maison Ronde, et puis à côté, il y avait un petit électron libre, le Centre Bourdan.
Le Centre Bourdan, dans lequel, effectivement, à deux pas, se créaient des émissions totalement incroyable. On a évoqué en tête les compteurs, par exemple, d'André Voisin, et il y a de très nombreuses autres émissions, en particulier un certain regard, de très nombreuses émissions scientifiques, et un certain regard invitait beaucoup de scientifiques. Et donc, on va dire, une plateforme pour créer des programmes alternatifs.
C'était, dites-vous, un avant-poste de la science-fiction.
Oui, parce que dans l'esprit de Pierre Schaeffer et dans l'esprit de tous les gens qui étaient là, l'idée c'était de travailler sur les sciences. Il y a beaucoup de choses sur les sciences, peut-être qu'on on y reviendra, mais d'y travailler avec un esprit totalement aventurier. Et donc il y avait c'est une époque où il y a beaucoup de science-fiction. La science-fiction est un genre qui se développe beaucoup dans les années 50 et 60. Et il se trouve que Schaeffer est fan, est tout à fait fan de science-fiction, comme d'ailleurs Piotr Kammler, comme de très nombreux autres auteurs.
Alors, Piotr Kammler, c'est un oui. Polonais, un grand cinéaste d'animation, parce que le service de la recherche est aussi un pont avec l'animation.
Oui, il y a plusieurs groupes à l'intérieur du service de la recherche. Il y a un groupe qui existe toujours qui s'appelle le GRM, le groupe recherche musique. On a un groupe de recherche image, dans lequel justement travaillent des animateurs. Et puis on a un groupe de recherche technique. Et le groupe de recherche technique, c'est là que s'inventent les outils de la télévision du futur. L'idée du service de la recherche, c'est vraiment d'inventer de nouvelles formes pour, d'une certaine manière, déceler le public de la télévision de cette époque. Vous parliez de Guy Lux, etc. On est effectivement dans une télé, Léon Zitrone, voilà. On est dans une télévision extrêmement fermée dans ses formes, et le but est de faire exploser ces formes.
Alors, vous parlez d'outils, voici la description. C'est un nommé Ledoux qui a inventé le prototype, qu'il aurait prénommé Caroline.
Jean Dejoux, hein, il s'appelle.
Dejoux, pardon. Excusez-moi. C'est le prototype d'un outil qui s'appelle l'animographe. Alors, vous essayez de comprendre, c'est une machine déjà un peu Shadok avant qu'elle ne produise les Shadok.
Alors, nous avons conçu une machine qui se trouve être en deux parties. Une table à dessin attend qu'on dessine. Alors, le premier dessin étant fait, simple, compliqué, au gré de notre fantaisie, en appuyant sur un bouton, Caroline se met en marche, les bandes avancent et je n'ai plus qu'à opérer le transfert du premier dessin sur la seconde bande grâce à un système optique. Et je décalque tranquillement mon deuxième dessin, mais en apportant les légères modifications d'où vont naître entre ce premier et ce deuxième dessin la notion de mouvement. Mais alors la notion de mouvement sera obtenue cette fois-ci non plus par 24 images dans une seconde, mais par 5, par 6 ou par 3. Et voilà, mon animation est partie. Je la regarde, il ne me plaît pas. Je renvoie mon dessin en marche arrière. Il se trouve revenu à son point de départ. Je le modifie. Et nous voilà repartis. En marche avant dans le système.
Ouais, enfin, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais le résultat est quand même, comment dire, professeur Shadoko, un peu rikiki. Vous dites que c'est une machine qui génère, je vous cite, hein, une esthétique de la simplification qui colle à la limitation du récit.
Oui, absolument. Les Shadok sont nés de l'animographe. Il faut toujours avoir ça en tête. Ce n'est pas l'animographe qui a été généré par les Shadok comme un outil de production. C'est la série elle-même, et d'autres d'ailleurs, séries, qui sont nées de l'animographe.
Donc Schaeffer demande à Jacques Rouxel, un de ses collaborateurs, essaye de produire quelque chose avec ce machin rikiki.
Jacques Rouxel répond finalement à une demande qui est celle du service de la recherche à travers son directeur des programmes André Voisin, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une demande de produire des intermèdes entre, pour faciliter le passage d'antenne, entre la première et la seconde chaîne qui vient d'être créée. Et donc on a à ce moment-là de très courts moments, 2 minutes à remplir.
Et avant c'était des poissons, ça s'appelait les interludes.
Les interludes, des poissons rouges, des petits trains, etc. Et là l'idée c'est de faire des interludes qui choquent le spectateur. Hein, c'est ce que veut André Voisin, c'est ce que veut aussi Pierre Schaeffer.
Oui, mais votre animographe, il produit quand même des dessins très simplifiés. Je sais pas, pour comprendre, il faudrait dire que c'est exactement le contraire de Walt Disney.
Oui, c'est très exactement ça, et c'est même une volonté de ne pas faire du Disney. Et Jacques Rouxel déteste Disney dans son côté, enfin dans l'esthétique, et à la fois aussi dans l'idéologie. Et du coup, l'idée c'est de créer une antithèse à Disney, et pour ça il se réfère à une des choses qui existent déjà dans l'animation au niveau mondial, en particulier une production très importante qui s'appelle UPA, United Productions of America, qui est un centre d'une boîte de production américaine qui produit des films simplifiés. C'est-à-dire où la forme est totalement simplifiée avec des aplats de couleurs, avec une sensation de rapidité. Donc l'antithèse du réalisme disneyen.
Alors, venons-en au fait, si vous voulez bien, professeur Chadoko, Sébastien Denis, vous avez vu le premier épisode, on va dire 1-1, vous savez, comme pour les textes canoniques. Vous avez vu le premier épisode, vous aviez quel âge en...
Oh, je l'ai vu bien après, je l'ai vu une vingtaine d'années, j'avais pas la télé, mes parents n'avaient pas la télévision, donc jusqu'à une vingtaine d'années, je n'avais pas vu les Shadok.
De toute façon, vous n'étiez pas né en avril 1968, quand commençait ce véritable feuilleton cosmique.
Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les Gibi. Voici un Gibi vu de près, en voici un autre... Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète, et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadok qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadok.
Vous êtes trop jeune, Sébastien Denis, mais vous vous souvenez pas que c'était une période de passion spatiale extraordinaire? C'est un feuilleton cosmique.
C'est un vrai feuilleton cosmique qui, évidemment, prend place à l'intérieur du véritable feuilleton cosmique qui est la course à la Lune. On est vraiment dans une représentation métaphorique d'une course à la Lune qui existe bel et bien, évidemment, cette période.
Alors donc, à équidistance de la Terre où ils veulent s'établir, les Shadok, on va revenir vers eux, et les Gibi à qui il faut quand même faire un sort, parce que dans la première série, ils n'ont pas nécessairement le même aspect que plus tard. Donc, ils portent un chapeau melon. Gibi, ça veut dire Grande-Bretagne, GB?
Oui, c'est Gibi en anglais, hein, ouais. Great Britain.
Et... Je voulais vous poser une question de fond, professeur Chadoko. Les Gibi ont moins d'individualité personnelle que les Shadok, ils en ont quand même davantage que les Schtroumpfs.
Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'individualité, ils existent uniquement quand ils mettent leur chapeau. Hein, donc ça, c'est tout dire. Par contre, c'est une société bien plus évoluée et bien plus intelligente que celle des Shadok. Hein,
mais les Schtroumpfs, eux, ils sont un peu totalitaires.
Les Schtroumpfs sont davantage totalitaires que ne le sont les Gibis qui, à la base, dans la première saison, sont pensés comme des progressistes. C'est une société progressiste, totalement uniforme. Donc c'est en ça qu'elle est potentiellement totalitarisante, on va dire, mais qui en même temps apporte de la modernité. Il faut bien avoir en tête que dans la première saison, les Gibis sont les bons. Hein, c'est Rouxel qui le dit, et les Shadok sont les méchants. Mmh. C'est comme ça qu'ils pensent les choses.
Les Schtroumpfs, ils sont innombrables, c'est des masses, c'est-à-dire que les Shadok, on ne peut pas les compter, il n'y a d'ailleurs pas assez de mots pour qu'on puisse les compter. Non, c'est pour ça qu'ils sont peu nombreux.
Ils sont très nombreux, les
Shadok. Oui, mais en fait, ils sont individualisés.
Alors, il y en a très peu qui sont individualisés. En fait, ça ressemble quand même, finalement, à une société d'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on a, de toute façon, un roi. On a un devin plombier qui, évidemment, ramène vers la religion. On a un marin qui ramène vers l'armée. On a quand même, effectivement, une sorte de société qui est une société d'Ancien Régime. Face à elle, on a une société Gibi qui est une société égalitaire, où, effectivement, il n'y a pas d'individualité, mais où tout le monde est intelligent.
Alors, je vous propose maintenant que le responsable d'enseignement du montage... Vous enseignez le montage.
Ah, je ne l'enseigne plus directement.
C'est... Bon, bah vous l'avez
ça, c'était
longtemps.
Longtemps, oui.
Se mettre à la table et pour nous parler du travail sur le son. Enfin, ils se mettaient tous, les collaborateurs, à la table. Rouxel, les frères Cohen-Solal qui, dans le son, ont joué un rôle fondamental. Et puis, peu à peu, ils ont chacun pris leur autonomie.
Au début, on travaillait tous ensemble, tous groupés. Maintenant, on connaît les gens, on est tellement Shadok les uns les autres qu'il y a une petite osmose qui se fait, et que rien qu'à la vue des dessins, Robert sait très bien ce qu'il faut faire. Et, je lui donne quelques indications, comme vous avez vu, mais il pourrait les faire pratiquement tout seul.
Mon impression la plus profonde serait évidemment de revenir à une simplicité... à une naïveté essentielle, hein. J'essaye de la trouver à travers ces instruments qui sont purement électroniques, qui sont le fruit de la technique. Hein. J'essaie de les trouver en essayant d'imiter la nature hein, dans les phénomènes qu'elle produit, le vent ou bien la pluie, le tonnerre, toutes ces choses qui sont à la fois des symboles et qui existent vraiment.
Lorsque les Shadok s'expriment à ce moment-là, on entend Jean Cohen Solal.
Ah bonjour, bonjour, ça va?
Ça va, merci.
Ça va, bon aussi.
Alors là, il y a les Shadok graves, virils, puis il y a les Shadok plus... plus aigus.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Les Shadok de retour avec un livre édité par Lina, de notre invité, Sébastien Denis, et une exposition à 7 au Musée international des arts modestes jusqu'au début novembre. Alors, Jean Cohen Solal, il a des cordes vocales étranges. Son frère, des goûts musicaux, son frère Robert, qui pour le vaste public des téléspectateurs devait paraître insolite.
Oui, c'est effectivement quelque chose qui n'avait pas eu accès au prime time, hein, puisque la diffusion des Shadok, c'est le prime time. Et là, ce que donne à entendre finalement Robert Cohen Solal, son frère Jean ne fait que les voix. Hein. Robert, c'est lui qui fait le sound design, on dirait le son, la musique. C'est un univers qui est celui de la musique concrète. Et c'est important de parler de musique concrète puisque le service de la recherche de l'ORTF et le GRM en particulier ont été créés par Schaeffer pour promouvoir la musique concrète. Et donc, d'ailleurs, les Shadok, comme les autres films qui étaient produits par le groupe de recherche Image, étaient faits initialement pour promouvoir aussi la musique concrète. Donc, cette musique concrète, c'est quoi? C'est une musique qui est créée à partir de sons du quotidien et non pas d'instruments de musique et qui sont retraités de manière très, très concrètement avec des bandes, hein, on va triturer les bandes, on va classer les sons, hein, donc c'est tout ce que Schaeffer finalement a mis en place, c'est une sorte de grammaire sonore, et puis on va faire une musique nouvelle à partir de ça. Et évidemment ça choque beaucoup les auditeurs, hein, mais je dirais que même ça choque Jacques Rouxel lui-même. Et ce que Robert Cohen Solal a l'intelligence de faire, c'est en fait d'outrepasser ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de faire de la musique concrète, et de s'adapter à son auteur, de s'adapter à Rouxel, qui lui n'aimait pas la musique concrète, qui trouvait vraiment très insupportable, et de faire un mélange. Et donc effectivement, il va faire un mélange avec de la musique concrète côté Shadok, avec les voix de son frère, et avec donc des triturages de sons, des bruits de pneus, etc., enfin, de caoutchouc. Et par contre, d'un autre côté, on a les Jibi, dont on parlait tout à l'heure, qui, eux, ont un univers musical classique, hein, c'est-à-dire qui écoutent des menuets, etc., donc de la musique classique.
Et le tout commenté sur le ton presque gaulien par Claude Pieplut, dont la notoriété commence aussi à faire un peu d'ombre avec Jacques Rouxel, qui fait avec tout ça. La première série est commencée en avril 68. Les Français croyaient être sur une planète stable, et puis tout glisse. Et quand elle recommence, après la longue grève de l'ORTF, en septembre 1968, les esprits sont passablement échauffés par les frottements qu'a connus le pays. Manette Bertin imagine alors, pour la prochaine saison 69, une émission « Les Français écrivent au Shadok », à partir du courrier, une émission à laquelle Jean-Yann et Daniel Prévost prêtent leur voix.
Moi, je vous le dis catégoriquement, les Shadok, je trouve ça génial.
Oui, bien moi, je vous dis que c'est faire pour les arriérés.
Oui, ben c'est très spirituel.
Moi, c'est d'une ineptie flagrante.
C'est aimable.
C'est dément.
C'est oxfordien.
Non, je trouve ça folie.
C'est ironique.
C'est pour les désaxés.
Mais c'est plein de bonne volonté.
C'est idiot.
C'est français.
C'est débile. C'est débile.
Mais c'est un humour nouveau.
Non, c'est pour les imbéciles.
Mais non, mais sûrement pas. C'est drôle.
Non, c'est
farfelu. Marrant, quoi. Ça a du ressort.
C'est une insanité.
C'est formidable. C'est ingénieux.
C'est insensé.
C'est passionnant.
C'est
original. Mais c'est loufoque. Ça vous plaît pas parce que c'est
Fogg.
Je parle de contractants.
C'est plein de santé morale, c'est naturel, c'est coquin.
C'est une économie de somnifères.
C'est plein de finesse, c'est un bienfait national.
C'est une idiotie évidente.
Mais c'est full of spirit, voilà ce que c'est, plein de suspense.
Un massacre télévisuel flagrant.
C'est gay, c'est super lubrifiant.
Les Shadow pour les Sinoc.
C'est désopilant.
C'est laid.
Mais c'est meilleur que du Shakespeare. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est fabuleux. Monsieur Formé, vous m'énervez. C'est très bien, les Shadow. C'est très très bien, vous pensez. Il n'y a pas une émission comme celle-là sur la télévision. Vous comprenez? Je suis d'accord avec vous, c'est minable.
Oui, non, c'est très bon quand même.
Non, c'est lamentable.
Non, c'est très bon.
Non, mais c'est d'une pauvreté.
Non, c'est très bon, moi je trouve ça génial.
Non, c'est une œuvre.
Non, non,
moi je vais vous dire. Moi je trouve ça désolant.
Non, c'est soigné.
Ah non, non.
Et puis c'est très intelligent.
C'est négligé.
Moi, personnellement,
ça n'a pas de sens.
Non, puis c'est très bien fait.
Mais écoutez, mais ne m'énervez pas, je vous dis que c'est un massacre télévisuel.
Non, enfin, écoutez,
c'est ignoble.
Oui, mais
c'est laid. Mais c'est déséquilibré, c'est lugubre.
C'est
du rutabaga, voilà, c'est ça. C'est agressivement idiot, indigent. C'est intolérable. Mais non, c'est une honte nationale. C'est une andouillerie. C'est la potéose de la crétinerie.
Alors si on a choisi le moment où les points de vue s'inversent, c'est un peu pour respecter l'esprit profond de Jacques Rouxel qui ne voulait jamais s'inscrire définitivement dans aucun camp, et notamment dans aucun camp politique.
Absolument. C'est vrai qu'on dit souvent que les Shadocks auraient généré mai 68. On le lit souvent parce que tout simplement la diffusion a commencé la veille de mai 68. Donc c'est tentant. Évidemment, il n'en est rien. Et par ailleurs, c'est vrai que Rouxel lui-même s'est toujours mis en dehors d'une quelconque lecture politique de son travail. Il a toujours laissé tout le monde dire ce qu'il voulait sur les Shadocks, mais à titre personnel, il ne voulait pas effectivement paraître ni de droite ni de gauche. C'est quelqu'un qui était fondamentalement apolitique, qui éventuellement pouvait être anarchiste, c'est possible, mais qui ne voulait pas en tout cas que ça apparaisse. Et en tout cas, voilà, qui était dans un positionnement apolitique.
Et qui travaillait pour un peu tout le monde.
Oui,
il a comme vous travaillé pour le CPA,
il a travaillé...
la production de films aux armées.
Voilà, il a travaillé aussi, effectivement, c'était quelqu'un qui avait une maison de production, 3A. Il fallait effectivement faire des films institutionnels pour faire vivre la structure. Et donc il y a des films Shadock pour l'armée, pour le nucléaire, pour c'est quelqu'un qui a travaillé effectivement un peu comme un mercenaire parfois.
Mais restons-en
quand même avec un esprit, l'esprit qui est celui des Shadock.
Suivons toujours le fil quand même de la série telle qu'elle était destinée au vaste public, lequel avait été préparé par cette émission. Les Français écrivent au Shadock, et puis peut-être rassurer, 2-1, deuxième série, premier verset, nous sommes dans ce moment, 1970.
Si nous avons cédé, malgré tout, devant l'insistance des Shadock pour reparaître à partir d'aujourd'hui sur vos écrans, c'est à la condition formelle et expresse qu'il ferait un effort réel et sincère pour développer leur intelligence et relever ainsi le niveau éducatif et culturel de leur émission. Les Shadocks l'ont promis. Dans la suite des émissions, nous pourrons donc assister, quand les péripéties de l'histoire nous en laisseront le loisir, à l'éducation des Shadocks. Les cours de culture générale, de mathématiques et de mécanique, cours de chant, de musique. De danse et quantité d'autres arts d'agrément. Que nos téléspectateurs se rassurent, dans très peu de temps, les Shadocks seront aussi intelligents, civilisés et cultivés que vous et moi. Et sauront enfin composer un spectacle digne de vous être présenté. Enfin, espérons.
Oui, pas sûr que ce soit la bonne méthode. C'est l'époque de la réforme Edgar Faure qui réclame l'autonomie pour les universités, mais aussi pour les élèves. Et là, on entend le marteau qui tape sur le cerveau du Shadock jusqu'à ce que le savoir s'enfonce dans une de ses cases. Qu'est-ce que c'est la grande différence entre la deuxième et la première série ?
Alors dans la deuxième série, qui vient donc après ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'émission de Jean-Yann, l'idée est en fait, d'inverser les rôles. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la première saison, les JB étaient les bons et les Shadok étaient les méchants. Et bien là, évidemment, après mai 68, ce qui s'est passé, c'est que les Shadok, au contraire, ont été vus très positivement, comme étant tout simplement des ouvriers réprimés. Et donc, on a une métamorphose assez importante qui se fait jour dans la deuxième saison, qui est que les JB deviennent des exploiteurs, et que les Shadok deviennent justement ces ouvriers réprimés. Donc on a un changement total.
Et puis il y a un récit, peut-être une inspiration moins libre et heurtée que dans la première. La troisième série, elle choisira des thèmes, l'ordinateur, la création du monde, que sais-je. Et la quatrième série, alors là c'est bien après votre naissance, elle est peu connue, elle a été diffusée en l'an 2000, vous n'aviez toujours pas la télé.
Toujours pas.
Oui, mais alors elle est sombre, non?
C'est une série qui est assez différente, qui est une très bonne série d'ailleurs, qui est dans l'intégrale. Hein. Je pense que les gens
devraient les quatre DVD
de Lina, hein, qu'il faut avoir, qui coûte pas cher en plus, qui est vraiment magnifique. Et à l'intérieur de ça, on a la quatrième saison que presque personne n'a vue en fait à l'époque. Elle a été assez mal diffusée par Canal+, et qui est vraiment intéressante parce qu'elle est beaucoup plus axée sur la psychanalyse.
Et puis aussi sur l'histoire, parce que on a souvent présenté les Shadok comme réduisant le poids des héritages culturels, mais on pense de plus en plus à l'histoire quand on voit la quatrième série. Parce que une question comme ça d'ordre historique, c'est quoi l'événement, professeur Shadoko, pour les Shadok alors qu'ils ne cessent de pomper et qu'ils font toujours la même chose, l'événement?
Il n'y a pas vraiment d'événement.
Ah. Hein,
c'est-à-dire qu'on est quand même dans l'idée que rien ne change jamais. Hein, c'est une société, puisque la quatrième saison montre exactement la même chose que la première. On est dans une société qui reste celle du travail, qui reste celle de l'asservissement. Mais avec, dans cette dernière saison, des relents qui sont plus... quand je dis psychanalytique, c'est le problème de l'angoisse. C'est-à-dire c'est une angoisse existentielle.
Oui, mais justement, c'est l'angoisse de l'événement qui pourrait arriver qui fait qu'on pompe. On pompe pour que rien de pire ne survienne.
La catastrophe, vous voulez dire.
Ouais.
Oui, mais la catastrophe, finalement, elle est déjà là. Elle est déjà là depuis le début. Hein. Donc, ce qui est intéressant cette saison, c'est qu'elle remixe finalement les trois saisons précédentes. Mais la catastrophe a toujours été là.
Les quatre saisons considérées de manière panoramique dans le coffret de Lina, dans l'exposition du Musée international des arts modestes de Sète, dans votre livre « Esthétique et pataphysique des Shadok » aux éditions de Lina. Tout de même, nous, on a repéré un événement absolument incontestable qu'on appelait naguère les grandes découvertes et qui est présenté ainsi dans la quatrième série.
Creusons plus profond. Là, on tombe sur Shadok Colomb. Shadok Colomb, disaient les pétroles, était un pauvre marin breton qui pêchait le hareng. Mais il n'y avait pas de hareng et c'était la misère. Alors il partit très loin, très loin, sur la mer déchaînée. Mais aucun hareng ne se profilait à l'horizon. Or un jour, du haut du grand Kakatoua, un marin s'écria « Hareng ! Hareng ! Hareng ! » Or c'était l'Amérique peuplée de ces terribles harengs rouges. Shadok Colomb et ses marins furent tous mangés et ne revinrent jamais. Non, non, c'est encore trop triste, crie la population. Recreusons, recreusons. Alors voilà que sort un Shadok cheval et on boit, mais ça, on en parlera la prochaine fois.
Hélène Langlois à la technique, Valérie Estaraï à la réalisation, la préparation de la marche de l'histoire, Mathilde Novel, Frédéric Martin.